Bonjour, tout le monde. J'ai organisé toute ma paperasse ici. J'espère que vous profitez de ce merveilleux jour de sabbat alors que nous commençons à sortir de l'hiver et à entrer dans le printemps. Que tout soit raccourci avant que cela n'arrive. Je vais vous poser une question. J'ai tendance à aimer commencer les sermons par des questions. Celui-ci est un peu différent. Nous allons prendre une drôle de direction aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet. La question est, quelle est la différence entre un travail, une carrière ou une vocation? Je vais la répéter. Quelle est la différence entre un travail, une carrière et une vocation? Comme vous pouvez l'imaginer, il existe des définitions, et l'article de Forbes les explique d'une manière très logique. Mais si l'on consulte le dictionnaire, on constate qu'elles sont très similaires, mais tout d'abord, un emploi. La définition, telle qu'elle est décrite dans un article plus long, est la suivante: un emploi vous offre un salaire, des avantages et peut-être quelques avantages sociaux. Il s'agit avant tout de gagner ce salaire. Si vous travaillez chez McDonald's ou un autre emploi pour lequel vous pensez que je ne veux pas faire cela pour le reste de ma vie, ce sont des emplois. Vous voulez juste l'argent. Vous voulez ramener l'argent à la maison, l'utiliser pour faire d'autres choses. C'est le salaire qui compte. C'est un travail. Une carrière. Qu'en est-il d'une carrière? Un travail que vous faites pour les autres, décrit-il, alors qu'une carrière est ce que vous faites pour vous-même. Les professionnels de la carrière travaillent aussi pour le salaire, soyons honnêtes, qui ne le fait pas? Mais ils sont plus enclins à rechercher des possibilités d'avancement sur le lieu de travail. Ils jouent un jeu plus long. Ils peuvent voir un chemin, un parcours professionnel comme ils diraient, et même s'ils occupent un emploi spécifique qu'ils n'aiment pas, ils peuvent le considérer comme un tremplin dans leur carrière. L'aspect plus long de l'endroit où ils veulent aller. Qu'en est-il d'une vocation? Il la décrit de la manière suivante. Ceux qui vivent leur travail comme une vocation sont les plus susceptibles de ressentir un alignement profond entre leur vocation et ce qu'ils sont en tant que personne. Ils ressentent un lien personnel et émotionnel avec leur travail. Ils sont enthousiastes, ont le sentiment d'avoir un but et sont prêts à travailler plus dur et plus longtemps pour apporter leur contribution. Sans surprise, ce groupe est souvent le plus satisfait de sa situation professionnelle. C'est presque le jeu à plus long terme de ce que serait même une carrière, mais c'est comme avoir une carrière que vous aimez pouvoir faire. On dit que si on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Si c'est une vocation, il s'agit de passer à un niveau supérieur en tant que chose qui s'aligne avec vous ou moi en tant que personne. Réfléchissons à différentes carrières. C'est étonnant parce que l'esprit humain, nous stéréotypons les choses si fortement. Chacun d'entre nous se fera une image différente, mais vous vous ferez une image de chacune de ces carrières. Maintenant, laissez-moi vous reposer la question. Qu'est-ce qu'un maçon? Pouvez-vous l'imaginer dans votre tête? Un peu costaud. Il a fait le tour du quartier plusieurs fois, il est un peu grisonnant. Peut-être un peu usé par le temps. Regardez-les. Ils le font depuis de nombreuses années. Vous pouvez dire qu'ils ont utilisé leurs mains, de grandes et fortes mains. Tu peux t'imaginer cela dans ta tête? Que font-ils? Vous pensez, ok, ce que fait un maçon, comment le décrire? Ok. Regarde le maçon. Et une ballerine? Je vais sauter de l'autre côté. Ce sont des chemins de carrière qui ne s'entremêlent pas habituellement, n'est-ce pas? Personne ne dit, vous savez quoi? Je vais quitter la maçonnerie et devenir une ballerine. Et probablement pas non plus dans l'autre sens. Tu t'es imaginé. Un tutu de ballerine. Vous imaginez tous ces stéréotypes dans votre esprit. Tout vous vient à l'esprit, surtout si vous êtes une personne visuelle. Qu'est-ce qu'un ingénieur? On pourrait penser, ok, qu'il porte un costume et des lunettes et se tienne derrière un podium. Un peu ringard. C'est bon. Et un scientifique? Ok. Une blouse blanche. Toutes ces images te viennent à l'esprit. Ce sont différentes vocations qui sont en fait des carrières. Dans certaines d'entre elles, s'ils sont vraiment dedans, c'est ce qu'ils sont. J'ai pris l'exemple d'un danseur de ballet. Cela change la forme du corps d'une personne parce qu'elle doit travailler très dur et faire partie de ce qu'elle fait, de la façon dont elle bouge. Électricien ou enseignant. Pensez à tous ces différents domaines, et vous imaginez certaines choses. S'ils sont passionnés, cela change de ce qui pourrait être simplement une carrière, dans certains cas un emploi, mais la plupart de ces métiers sont des carrières. Vous devez entrer dans ces rôles, l'école, et le temps. Ça change d'une carrière à une vocation. S'ils sont vraiment derrière cela. Certaines personnes comme les enseignants, vous pouvez dire qu'ils étaient destinés à enseigner. On pourrait dire, oh, c'est la vocation de leur vie. Examinons une autre profession, et ouvrons dans la Bible. Vous voyez peut-être maintenant où je vais, mais pas où je vais arriver. Ouvrez à Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4. Commençons par le tout début du chapitre, Éphésiens 4, verset 1. Le premier verset dit, « Moi donc, prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. » Nous regardons toujours ce mot, et vous avez entendu plusieurs fois dans l'Église que nous disons, « Notre vocation ». Eh bien, le christianisme est notre travail. Eh bien, vocation peut signifier travail, commerce ou profession, mais en anglais, vocation signifie en fait l'emploi ou l'occupation principale d'une personne considérée comme particulièrement digne ou exigeant un grand dévouement. Cela ressemble un peu à un appel, n'est-ce pas? C'est parce que le mot en grec est en fait appel. Vous pourriez le lire comme « marcher d'une manière digne de l'appel par lequel vous avez été appelé ». Verset 2 « En toute humilité, douceur et longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés dans une seule espérance de votre vocation. » Frères et sœurs, nous pouvons avoir des emplois, nous pouvons avoir des carrières, mais Dieu a dit qu'il avait un appel particulier pour nous. Vous n'en avez pas plus d'un dans votre vie. Vous pouvez aimer ce que vous faites pour votre travail, vous pouvez aimer la carrière dans laquelle vous avez reçu des dons pour en faire partie, mais ce n'est pas votre appel ou le mien. C'est le salaire qui compte. Nous sommes bénis, surtout ceux qui sont au siège, nous avons la chance de travailler dans le travail. C'est une expérience merveilleuse, mais ce n'est pas notre vocation. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, on pourrait dire, c'est d'être chrétien. C'est comme la vocation que nous recevons, c'est le christianisme. Tout comme le maçon, l'ingénieur ou l'enseignant, qu'est-ce que le christianisme? Pensez à cette description de poste. Comment la définiriez-vous? Si vous pensez au terme du christianisme, comment pourriez-vous vous faire une idée de ce que cela signifie de décrire notre vocation? Si je suis plombier, j'ai une description de mon travail qui décrit ce que je fais comme travail. Eh bien, en tant que chrétien, c'est quelque chose de bien plus que simplement un travail ou une carrière, nous devons avoir quelque chose d'autre aussi. Vous y penserez, vous penserez, ok, les 10 commandements, cela définit ce que signifie être un chrétien, facile. ou les jours saints que nous comprenons, la dîme. En réalité, les choses que nous croyons, les choses que nous pensons, les choses que nous comprenons, tout cela constitue notre description de travail, si vous voulez, mais c'est une description de travail. La Bible dit que vous et moi ne faisons pas un travail de chrétien, c'est notre vocation. Si vous êtes maçon, plombier ou ballerine, ou quoi que ce soit d'autre, une description de poste est juste écrite sur un morceau de papier. C'est ce que vous faites de cette description de poste qui la fait passer d'un emploi à une carrière. Vous avez plus de succès, vous êtes impliqué, vous êtes engagé, vous faites les choses qu'elle décrit pour vous et moi. C'est ainsi que l'on pourrait définir notre description de poste, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible qui dit que nous avons un appel? Rappelez-vous, c'est plus qu'une carrière. En fin de compte, comment réussissons-nous dans cet appel? Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Qui a entendu parler du film Matrix? Ok. Bien. Ça m'aide beaucoup parce que je vais citer Morphée. Cela ne se reproduira plus jamais. C'est en fait une phrase dont je me suis souvenu, j'ai dû la chercher, mais cela fait longtemps. Il dit dans le film à un moment donné, il y a une différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Si vous avez vu ce film plusieurs fois, ce qui est peut-être mon cas, je me souviens de la scène dans ma tête. Il y a une différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Allez à Jacques 2. Parfois, il y a des morceaux de sagesse dans la culture pop. Il a probablement été utilisé à partir de quelque chose d'autre. Jacques chapitre 2. Nous allons voir que c'est beaucoup plus important que la simple description d'un emploi ou d'une carrière, ou même que la façon dont il dépeint et devient notre vocation. Jacques 2, verset 14. Nous allons commencer. Verset 14 du chapitre 2 de Jacques. Que sert-il, mes frères, qu'un homme dise qu'il a la foi et qu'il n'ait pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est l'un de mes chapitres préférés parce qu'il parle des œuvres mais il ne vous en dit pas assez. Verset 15. Si un frère ou une sœur est nu, eux, est privé, eux, de la nourriture quotidienne, et que l'un, eux, d'entre vous lui dise, va en paix, réchauffe-toi et rassasie-toi, mais que tu ne lui donnes pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous ne les aidez pas. Vous n'avez rien fait. De même la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte, étant seule. Oui, un homme dit, tu as la foi et moi les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ce que nous faisons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien car les diables aussi croient et tremblent. Mais sauras-tu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, après avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Vois-tu comment la foi a agi avec ses œuvres, et comment la foi a été rendue parfaite par les œuvres? Et l'Écriture s'est accomplie, qui dit qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice, car il a été appelé l'ami de Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait, l'action, le fait, qui a montré qu'il croyait en Dieu. D'une certaine manière, c'est ce que cela signifie d'être chrétien. Nous croyons ce livre. Ce qu'il dit. Ce que nous devons faire. En continuant. Verset 24. Vous voyez donc comment c'est par les œuvres qu'un homme est justifié et non par la foi seulement. De même, Réhab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, lorsqu'elle avait reçu les messagers et les avait envoyés par un autre chemin? Car, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Eh bien, oui, bien sûr. C'est notre vocation. Ce n'est pas notre travail. Vous devez faire des choses dans un travail pour pouvoir rester dans ce travail. Si vous travaillez dans n'importe quel emploi et que vous dites, vous savez quoi? Je ne vais pas le faire, eh bien, on vous a engagé pour le faire, je n'ai pas vraiment envie de le faire, eh bien, votre travail exige que vous fassiez A, B, et C. Je n'aime pas vraiment A, B, et C. Ça ne dure pas très longtemps, ils disent, on ne vous aime pas. Vous voyez, vous devez faire des choses. Bien sûr, nous devons faire des choses en tant que chrétiens, mais c'est juste remplir la description du travail, pas l'appel. Pas la vocation. Allons à Galates 3. Galates, chapitre 3. Chapitre 3 et verset 26. Galates 3, 26. Le verset 26 dit, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, puisque tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés dans Christ ont revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, et vous êtes Christ, et vous êtes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Verset 27, nous avons revêtu Christ. Cela a dépassé le simple fait de suivre et de faire les actions du christianisme. Il s'agit de revêtir. On pourrait dire que, en tant que chrétiens, nous commençons par faire semblant. Nous sommes des revêtements. Parce que la première fois que vous venez au service, dès que vous êtes baptisé, peu importe ce que vous pensez avoir lu et appris, sans vivre réellement dans le christianisme, vous n'avez pas encore la profondeur nécessaire pour comprendre ce que cela signifie. On peut le revêtir, on peut faire semblant parce qu'on peut lire le livre. C'est un bon début, car lorsque nous revêtons Christ, cela commence à changer quelque chose dans la marche chrétienne. L'Esprit de Dieu travaille avec vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement quand il est en vous. Vous pouvez être un adolescent. Vous pouvez être un membre potentiel qui est nouveau. L'Esprit de Dieu travaille avec vous, mais cela change vraiment lorsque vous êtes baptisé. Il commence à passer de quelque chose que vous et moi faisons à quelque chose que vous et moi sommes. C'est alors que nous passons d'un travail à un appel. Il ne s'agit pas seulement des tâches, des articles, d'obéir à ceci ou de garder le sabbat, de payer la dîme, de payer le karma. Toutes ces choses sont des actions requises en tant que chrétiens, mais lorsque nous prenons le christianisme et que nous passons du « je vais juste suivre toutes les étapes du processus » dans lequel nous commençons tous, et que nous devons tous faire « à ce qui je suis », quelque chose change. Quelque chose de puissant change en vous et moi quand nous faisons cette transition. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne, il faut du temps pour devenir de plus en plus nombreux parce que, rappelez-vous, nous mettons de côté cet homme lorsque nous l'avons enterré au baptême. Lorsque nous sortons, nous sommes une nouvelle personne, mais nous ne sommes pas une personne achevée. Nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons maintenant de grandir, de nous développer et d'atteindre la plénitude de la statue du Christ. Mais nous commençons par la revêtir. Le christianisme n'est pas un « bien », c'est le « sabbat ». Une fois et c'est fait. Nous y voilà. J'en ai fini avec cela. C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Le nombre d'articles si vous recherchez « chrétien » à temps partiel est fascinant. Des centaines et des milliers d'articles de chrétiens professants expliquant pourquoi il est si mauvais que tant de chrétiens professants ne le fassent qu'à temps partiel. Ils le font le dimanche et retournent ensuite à leur vie normale. D'abord, ils ne peuvent pas le maintenir parce qu'ils le font. Ils doivent le faire. Ils doivent faire semblant parce que l'Esprit de Dieu travaille avec eux. Toi et moi, ce n'est pas comme cela que cela marche. Quand tu as quelque chose, cela ne change pas. C'est là que le monde devient si confus. Si vous êtes un garçon, vous êtes toujours un garçon, peu importe à quel point vous essayez de manipuler le corps. Si vous êtes une fille, si vous êtes petit, si vous êtes grand, ce sont des choses que vous êtes. On ne peut pas le changer. Je suppose que si on me coupait les jambes, je serais maintenant petite, mais au-delà d'une sorte d'extrême, il y a certains aspects de nous-mêmes. On peut être noir, on peut être blanc, on peut être asiatique. C'est ce que nous sommes. Nous n'allons pas les changer. Tu sais quoi? Tu ne vas jamais faire face à quelque chose quand c'est ce que tu es. Tu ne vas pas, à un moment donné de ta vie, dire tu sais quoi? La vie est dure. Je ne vais tout simplement plus être chinois. C'est stupide, n'est-ce pas? On ne peut pas changer qui on est. Si le christianisme devient ce que nous sommes, rien ne pourra nous arrêter dans cette marche. Rien ne se mettra en travers de notre chemin. S'il devient ce que nous sommes, nous serons capables de combattre et de surmonter n'importe quelle tempête. Si nous ne le faisons pas, si nous nous contentons de faire semblant, c'est incroyablement dangereux. Avez-vous déjà essayé de faire semblant? Vous allez dans une conversation ou un groupe ou un cadre social, et peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ce groupe, mais, je dois faire semblant. Peut-être que c'est un salon de l'emploi ou un entretien, et vous allez dans cette situation, et vous en mettez plein la vue. Tu sais que tu dois le faire, et c'est juste une partie de. Tu sais comment tu en sors? Épuisé. Comme, oh là là, c'était dur. Je l'ai traversé. Je l'ai fait, mais oh là là. Imaginez si vous deviez essayer de faire cela tous les jours et jour après jour et jour après jour. Si on simule le christianisme, c'est ce qu'on fait. Nous faisons semblant chaque jour, et il devient de plus en plus difficile de jouer la comédie, et finalement que se passe-t-il? On abandonne. Nous quittons l'église parce que nous ne sommes jamais devenus chrétiens. On a juste fait semblant. Encore une fois, nous commençons toute cette démarche, en faisant semblant. Il faut que cela se transforme. Satan est plus fort que nous. Il sait qu'il peut nous avoir à l'usure si c'est juste un acte, si c'est juste faire semblant. Encore une fois, si cela change, nous devenons invincibles parce que nous ne voulons jamais nous éloigner. Il ne nous vient jamais à l'esprit de nous éloigner. Cela devient ce que nous sommes. Tout comme il ne vous viendrait jamais à l'esprit de penser, non, non, je vais juste devenir blanc si je suis noir ou noir si je suis blanc. Ça ne marche pas. C'est juste ce que je suis. Nous allons passer le reste du temps aujourd'hui à examiner quelques moyens d'intégrer le christianisme dans notre faisceau, au cœur de ce que nous sommes, afin que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, quel que soit le temps que nous avons, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, rien ne puisse nous ébranler du fondement de ce que nous sommes. La première ici, vivre le christianisme. Pour vivre le christianisme, vous et moi devons trouver la joie dans ce que nous savons, ce que nous avons, et encore une fois, qui nous sommes. Tout le sujet de ce sermon a commencé par le fait que je me suis faufilé à travers notre logiciel vidéo depuis la maison, en regardant la préparation du spectacle amusant. Je jouais avec les caméras et je faisais des choses à la maison quand mon fils était là, et j'essayais de trouver un sujet de sermon. Je regardais les enfants, les adolescents et les jeunes de 20 ans, et tout le monde s'amusait. Je l'ai regardé et j'ai envoyé un message à Monsieur Ranney qui était ici pour travailler sur certaines choses, et que vous verrez tous ce soir. Je lui ai écrit et lui ai dit, « Oh là là, c'est du christianisme vivant », et il a répondu, « Eh bien, on dirait que vous avez un sermon ». Je me suis arrêté et j'ai dit « Merci, parce que je n'en avais pas encore. Voir l'excitation, la joie, l'amusement des gens, c'est en grande partie ce qui nous rend si différents des autres. C'est le psaume, allez au psaume 100. La centaine du psaume. C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu. Vous allez tous être gâtés ce soir. Le centième psaume, en commençant par le premier verset. Psaume 100, verset 1. Faites un bruit joyeux au Seigneur, tous les pays, servez le Seigneur avec joie, cela veut dire joie, venez devant sa présence en chantant. Oh, il y avait tant de chants d'enfants et d'adultes, certains bons, certains grands, certains hilarants mais avec joie. C'était joyeux. Allons au Proverbe 17, verset similaire. Juste un peu de préparation ici. Proverbe, chapitre 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux, ou un cœur gai ou joyeux, fait du bien comme un médicament. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons être heureux. Mais un esprit brisé dessèche les os. Une personne triste et battue, une personne négative a tendance à être plus malade, c'est la vie. La Bible le dit. Un cœur joyeux est comme un médicament. Il nous rend plus sains et plus forts. D'où cela vient-il? D'où vient cette pensée? Comment affecte-t-elle, et pourquoi est-elle importante pour vivre le christianisme, comme nous l'avons dit, et nous en avons parlé? Allez aux Galates, Nouveau Testament, chapitre 5. Encore une fois, des choses simples pour construire cette image. Galates, chapitre 5, verset 22, 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la mansuétude, la tempérance, et il n'y a pas de loi contre ces choses. Lorsque vous et moi recevons l'Esprit de Dieu, lorsque nous recevons les prémices de son Esprit et que nous commençons à changer moins de notre nature charnelle et plus de la nature spirituelle de Dieu en nous, nous recevons la joie. Pour devenir comme Dieu, pour vivre, pour être chrétien, pour en faire ce que nous sommes, nous devons manifester cette joie. L'Esprit de Dieu entre en nous, et par l'exercice, il s'écoule hors de nous. La manière dont il s'écoule de nous dépend de la situation dans laquelle nous nous trouvons, de ce à quoi nous avons affaire. Dans le cas d'un spectacle amusant ou autre, c'est joyeux. Frères et sœurs, cela ne signifie pas que vous devriez toujours si vous échouez en tant que chrétien, si vous n'êtes pas toujours joyeux. Si tu es toujours joyeux, tu es fou. Ils mettent les gens dans des foyers. Ils se promènent en disant « Je suis tout le temps heureux ». Ils sont au coin des rues. Ça s'appelle la manie. Non, on est joyeux grâce aux expériences, aux choses qu'on peut faire. Allez à 1 Chronique. C'est un récit amusant. 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16 et verset 23. 16, 23. 1 Chronique. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, exposez de jour en jour son salut. Déclarez sa gloire parmi les païens, ses merveilles parmi les nations. C'est le Dieu qui nous a donné la joie. Lorsque nous avons des doutes ou que nous nous sentons tristes ou frustrés, souvenez-vous que c'est le Dieu qui nous a donné la joie. Verset 25. Car le Seigneur est grand et très digne de louange, car il était craint par-dessus tous les autres dieux, car tous les autres dieux du peuple sont des idoles, mais le Seigneur a fait les cieux. C'est l'un de mes versets préférés dans la Bible, à cause de sa simplicité. Juste, en fait, j'ai fait le petit déjeuner. Non, le Seigneur a fait les cieux. Pensez à la puissance de cette simple déclaration. Il a juste fait l'univers. Un jour entier régulier pour Dieu, et il va juste les plier et les recréer comme si ce n'était pas. C'est le Dieu que nous servons. Nous devrions avoir la joie d'avoir accès à cela. Pensez à ce que vous et moi savons. Pensez à ce que nous savons et que nous ne savions pas il y a 10 ans. Il s'agit de Dieu le Père. Nous ne savions pas qui était Dieu le Père. Nous ne comprenions pas son rôle. Nous ne comprenions pas où il était placé dans le gouvernement de Dieu au sens large, ni à quel point il était impliqué dans l'homme. S'il y a une raison d'être joyeux, c'est que vous et moi comprenons Dieu. Nous comprenons qui est Dieu. Continuez vers le bas. Descendez au verset 29. Rendez au Seigneur la gloire qui lui est due en son nom. Apportez une offrande, venez devant lui, adorez le Seigneur dans la beauté de la sainteté. Craignez devant lui, toute la terre, le monde aussi sera stable. Si nous craignons Dieu, le monde sera stable. Prenez ceci comme Dieu garde le monde stable, mais craignez devant lui toute la terre. Le monde aussi sera stable et il ne bougera pas. Notre monde, vous et moi, ne tremble pas si nous craignons Dieu. N'est-ce pas étonnant? Si vous craignez, si vous tremblez devant la parole de Dieu, si vous tremblez devant lui, votre monde autour de vous ne tremblera pas du tout. Il sera stable. Que les cieux se réjouissent. Que la terre se réjouisse, verset 31, et que les hommes disent parmi les nations, le Seigneur règne. Frères et sœurs, c'est la configuration de celui que nous servons, qui a créé les cieux, qui nous a donné la connaissance, qui nous a donné la compréhension, qui nous a permis de venir si loin à travers les années de notre marche chrétienne. Vous venez peut-être de commencer ou vous faites cela depuis des décennies. C'est le Dieu qui dit, « Je vais vous donner un peu de joie. » Et à mesure que cette joie se développe en vous, elle remplace la nature humaine. Au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se répand en nous, il remplace notre ancienne nature et ce que nous étions est déplacé par rapport à ce que nous pouvons devenir. Allons à Éphésiens 1. Retour au Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 1. Il s'agit de quelques versets qui permettent d'être joyeux. J'ai essayé d'en choisir quelques-uns que vous pourriez écrire et garder séparément. S'il vous arrive d'être frustré ou que les choses ne se passent pas comme vous le voulez, vous vous dites, où est la joie? Je suis chrétien, je devrais être heureux. Voici quelques versets simples qui nous aident à revenir en arrière pour dire, non, non. La joie fait partie de ce que je dois être. De qui je deviens. Ensuite, plus nous le faisons, plus c'est contagieux. Éphésiens 1 et verset 2. Nous allons commencer. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il est assez facile de se réjouir lorsque le Dieu qui peut dire en une phrase qu'il a créé l'univers dit aussi dans ce passage qu'il a choisi chacun d'entre nous avant la fondation de cet univers. Je l'ai déjà dit, mais c'est un de ces versets que nous avons appris et compris que Dieu nous a choisis, vous et moi. Nous sommes assis dans nos sièges parce qu'il est capable, depuis le début des temps, avant que l'univers ne soit en place, combien d'années lui et Christ, le Père, et Christ, se sont-ils assis et ont-ils planifié, organisé et déterminé, regardez comment les choses pourraient se dérouler. Les gènes et la génétique et le temps, la guerre, toutes les choses qui se produiraient au cours de l'histoire de l'humanité, et dire, quand nous atteindrons 2023, je veux que vous et 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 nous tous assis ici et autour du monde. La joie fait partie de ce que nous devrions être. Cela fait partie de ce mode de vie. Avec cela, viennent les bénédictions. Il est temps de parler des bénédictions. Chacun d'entre nous a un type différent de bénédiction. Connaissez vos bénédictions. Vivre le christianisme, c'est connaître la joie. Pour connaître la joie, vous devez connaître vos bénédictions, mes bénédictions pour être capable de les cataloguer et de dire, voilà comment Dieu m'a béni. C'est ainsi qu'il guide ma vie. Je sais qu'il peut le faire car il a créé l'univers et m'a choisi avant de le créer. Nous devons les avoir à l'esprit pour ressentir cette joie. Quand on le fait, on devient limite folle de joie parce qu'on se promène, et cela sort de nous. Tu as le droit d'avoir cela. Comment ne pas être excité? Comment ne pas sourire? Cela change les gens. Le sourire est incroyable. C'est comme cela qu'on montre la joie. Si je suis assis ici et que je vous regarde, et que je vous regarde et que je souris, c'est bizarre parce que je fais semblant de sourire, mais vous souriez tous. Vous ne pouvez pas aider mais un sourire serait contagieux. Vous ne pouvez pas aider mais la joie est contagieuse. Si vous êtes une personne qui n'aurait pas cela, ils sont, oh, les gens sont trop heureux tout le temps autour de moi. Vous retournez au livre et vous trouvez ce qui ne va pas parce que cela devrait être le contraire de cela en tant que chrétien. On devrait aimer être entouré de gens chaleureux, heureux, excités. Continuons ici. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Nous allons commencer au verset 14. Chapitre 5, 14. Maintenant, nous vous exhortons, frères, à avertir ceux qui sont indisciplinés. Consolez les faibles d'esprit, soutenez les faibles. Soyez patients envers tous les hommes. Verset 15. Veillez à ce que personne ne rende à personne le mal pour le mal, mais suivez toujours ce qui est bon, entre vous et avec tous les hommes. Verset 16. Réjouissez-vous sans cesse, priez sans cesse. Et en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. Éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Juste une liste de choses à faire, une liste d'exemples de ce que signifie vivre cette façon de vivre, de se réjouir toujours plus. Comme je l'ai dit, tu es presque cette personne folle. C'est ce que nous sommes censés être. Nous sommes presque en train de nous réjouir tout le temps. Vous allez avoir une épreuve. Nous en avons tous, et ce n'est pas joyeux. Nous devons considérer que c'est une joie quand nous traversons une épreuve, car nous savons que la patience nous rend parfaits. Vous pourriez continuer encore et encore, sur ce chemin, mais où se réjouir toujours plus? C'est de plus en plus facile à faire lorsque nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Encore une fois, lorsque nous le revêtons, lorsque nous commençons cette marche, nous devons finalement devenir lui. Vous et moi sommes parfaits. Nous sommes complets lorsque nous atteignons ce stade. Quand ce n'est plus nous qui revêtons Christ, nous sommes Christ. Pas au sens littéral, mais dans le sens où nous vivons, nous nous représentons, nous pensons, nous faisons, nous opérons par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. C'est alors que nous avons terminé la course, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. C'est à part parce que, alors que j'étudiais cela, j'ai décidé de rechercher ces mots parce que je ne l'avais pas fait depuis un moment. Verset 20. Ne méprisez pas la prophétie. Tout à fait à part ici, et je pense que cela peut aider les gens dans le contexte de la compréhension de la prophétie. Mépriser dans ce cas signifie mépriser. Traiter avec mépris ou ne rien inventer. N'inventez pas de prophétie. Examinons ce mot dans une minute. Il signifie en fait des prédictions. Ne méprisez pas les prédictions, et cela peut être dans les Écritures ou autres, n'importe quelle prédiction. C'est en fait un drôle de mot. Il n'y a que 19 fois dans la Bible que cette version apparaît. Ce n'est pas la même chose que ce que vous voyez comme prophétie ou prophétisé ou divers autres qui apparaissent, je crois que je l'ai écrit, et 149 fois. En gros, Dieu dit que les prédictions arrivent, ce qui donne envie de se dire, oh là là, elles se produisent probablement depuis longtemps, n'est-ce pas? Si Dieu a averti au premier siècle, ne méprisez pas les apôtres qui choisissent des dates parce que je l'ai mis dans ma parole, et nous avons l'exemple dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Qu'encore et encore, ils ont essayé de trouver des dates. Ne vous laissez pas aller à mépriser cela, car cela engendre le danger. Ce n'est pas vivre le christianisme, si nous commençons à, si nous mettons cela de côté. Non, nous devons juste continuer à avancer, nous exciter à nouveau. Nous continuons à obtenir des pépites à mesure que nous avançons. Pour prouver toute chose, tenez fermement ce qui est bon. Allons à Romains 14. Nous parlons de joie ici. Romains chapitre 14, juste un verset ici. Romains 14 et verset 17. Et le verset 17 dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de nourriture, ce qui est le contexte étant jugé sur la nourriture, mais il s'agit de justice, et de paix, et de joie. La joie est un élément crucial pour être un chrétien. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? Pourquoi la joie est-elle importante ? Tout le monde peut être heureux. Si vous allez raconter une bonne blague à quelqu'un, je me fiche qu'il soit converti ou non, il rit. Allez à Néhémie 8. Beaucoup de choses et d'émotions que les gens peuvent expérimenter dans le monde, mais elles servent un but différent pour nous. Néhémie, chapitre 8. Nous allons aller au verset 10. Chapitre 8, verset 10. Puis il leur dit, allez votre chemin. Mangez le gras, buvez le doux, envoyez des portions à ceux à qui rien n'est préparé. Donnez à ceux qui n'ont rien, car ce jour est consacré au Seigneur. Ne vous désolez pas et ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Rappelez-vous, j'ai dit au début de cet article, si nous devenons chrétiens, si c'est ce que nous sommes, rien ne nous fera peur parce que la joie du Seigneur est notre force. Si nous sommes joyeux à propos de cette voie, si nous sommes excités, nous, regardez ce que nous faisons ce soir et les choses et les aventures et la connaissance et les bénédictions et tous les aspects de la marche chrétienne. Si cela nous rend joyeux, Dieu dit que vous avez de la force. Les choses ne vous feront pas peur parce que le christianisme devient ce que nous sommes. Encore une fois, nous n'allons pas en arriver là. Nous ne serons pas comme Christ tant que nous ne serons pas comme Christ. Si vous trouvez de la joie dans ce que vous faites, en sachant que c'est une force que Dieu vous a donnée, alors la joie, c'est vivre le christianisme. Dites-le encore une fois. La joie, c'est le christianisme vivant. Numéro 2. Utiliser et développer nos talents en nous concentrant sur les autres est une autre façon de vivre le christianisme. Ok, encore le numéro 2. Utiliser et développer nos talents en nous concentrant sur le service aux autres est une autre façon de vivre le christianisme. Encore le chapitre 1 de Jacques. Je vais le répéter parce que vous êtes tous silencieux, vous ne tournez pas les pages, donc vous êtes toujours en train de le noter. Utiliser et développer nos talents en nous concentrant sur le service aux autres. Jacques chapitre 1. Nous y voilà. J'entends les pages maintenant. Jacques chapitre 1. Nous allons lire le verset 12. Le verset 12 dit, Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente aucun homme. Il nous tente et nous éprouve, mais tout homme est tenté lorsqu'il se laisse entraîner par sa propre convoitise et qu'il est séduit. Alors, quand la convoitise est conçue, elle engendre le péché, et le péché, quand il est consommé, engendre la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout bon don et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Tout cadeau que vous avez vient de Dieu. Tout bon cadeau. Tout don parfait. Si quelqu'un a un don complet ou parfait, vous savez que vous êtes le maître de quelque chose, nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite. Vous savez ce qui est étonnant? Si vous êtes dans le monde, vous pouvez probablement le faire parce que vous pouvez vous ramasser par les bretelles. Tu peux te former et te développer. Dans l'Église, il faut arrêter d'être fier et dire « Dieu me l'a donné ». Je ne peux pas être trop fier de ce que j'ai, car je comprends d'où cela vient. Si vous avez un talent, et chacun d'entre vous en a, si vous avez des dons, et chacun d'entre nous en a, alors nous devons reconnaître dans notre esprit que cela vient de Dieu. Vous savez pourquoi c'est une chose merveilleuse? Si Dieu met en vous quelque chose qui ne devait pas être là à l'origine, vous avez plus de Dieu en vous. Cela nous rend un peu plus semblables à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si Dieu nous a offert un cadeau, un bon cadeau ou un cadeau parfait, ils viennent de lui, mais qu'en faisons-nous? Comment les développons-nous? Ces dons font partie de cet appel. Tout comme n'importe qui dans le monde qui a une vocation, peut-être qu'il est médecin ou avocat, il est appelé à passer son examen au barreau. Les gens parlent de leur vocation dans diverses professions et ils s'enorgueillissent de ce qu'ils ont accompli. En tant que chrétien, non, nous devons prendre ce crédit et dire, « Ok, Dieu, tu m'as donné cela. Maintenant je ferai mieux d'en faire quelque chose. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Je ne veux pas être celui qui prend ce talent, le cache et le plante dans une serviette de table et revient et ne l'a pas développé parce que j'étais trop timide. Je ne pensais pas que j'étais assez bon. J'ai sous-estimé ce que Dieu m'a donné. Je ne pense pas que j'ai une opportunité. Quel que soit le cas que vous et moi pouvons penser dans nos têtes, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les talents et les dons que nous avons et de les utiliser, de les développer et de les faire grandir. Cela fait partie de ce mode de vie, même si c'est inconfortable. Oh, il fut un temps où je n'étais pas du tout une personne extravertie. J'étais le timide. Ma mère avait l'habitude de me dire, voyez ce que son fils, que j'étais toujours celui qui entrait dans une pièce. Je me tenais sur le côté, et je regardais les gens parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait et d'analyser la situation avant de m'impliquer, parce que je voulais avoir un plan avant de m'impliquer. Souvent, on peut surchauffer la paralysie par l'analyse, alors on reste en arrière dans le chat, et elle me poussait dans le groupe et me faisait y aller. Et jamais dans un million d'années je n'aurais pensé me tenir ici en venant de là, mais j'ai été poussé dedans. Eh bien, mes frères, poussez-vous et laissez Dieu vous pousser à faire des choses que vous ne pensez pas pouvoir faire. Vous savez que vous avez des talents. Vous savez qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes doué. Vous êtes peut-être timide à ce sujet, vous ne voulez peut-être pas le présenter, mais chacun d'entre nous sait quand il est bon dans quelque chose. L'humilité le cache parfois, mais parfois aussi l'orgueil. Eh bien, je ne suis pas le meilleur dans ce domaine. Alors je ne veux vraiment pas le présenter. Non. Dieu nous a tous donné des talents différents pour que nous lui ressemblions davantage. C'est pourquoi le corps du Christ, lorsque les parties sont mises ensemble, devient plus puissant que les parties individuelles ne le seraient si elles étaient additionnées. Romains 12. Romains chapitre 12. C'est juste les talents. Rappelez-vous, il s'agissait de développer nos talents pour nous concentrer sur les autres. Romains chapitre 12 verset 5. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et tous les membres sont les uns des autres, ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Dieu nous donne des dons différents. Encore une fois, dit d'une manière différente, que ce soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi ou du ministère. Attendons notre ministère ou celui qui enseigne. Enseigne. Faites les choses qui vous sont données. Si Dieu nous a donné quelque chose, nous devons le faire. Ou celui qui exhorte, sur l'exhortation, ou celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, ou... Cela signifie la sincérité. Que celui qui gouverne, le fasse avec diligence, celui qui fait miséricorde, avec gaieté. Que l'amour soit sans dissimulation, ce qui est de l'insincérité. Pourquoi ne pas dire simplement insincérité? Que l'amour soit sincère, c'est ce que cela dit. Ayez en horreur ce qui est mauvais, attachez-vous à ce qui est bon. Soyez bienveillants les uns envers les autres, avec un amour fraternel. Tout cela vient du début de ce chapitre où il est question de dons, et chacun a des dons différents, des talents différents. Verset 10 encore, ayez les uns pour les autres une affection bienveillante, avec un amour fraternel et de l'honneur, en vous préférant les uns les autres, en estimant les autres plus haut. Ne soyez pas paresseux en affaires, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance. Il est question de joie. La joie est partout dans la Bible. Patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, distribuant aux besoins des saints et adonné à l'hospitalité. Ce sont les cadres de la façon dont nous exerçons nos talents. Si nous avons des dons, nous devons être aimables, nous devons nous préférer les uns aux autres, nous devons nous réjouir ensemble, être patients dans la tribulation, la nôtre ou celle d'un autre, nous aider les uns les autres, être hospitaliers. Toute cette liste concerne d'autres personnes qui sortent du contexte des dons. Regardons un autre endroit, 1 Pierre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Commençons au verset 7. Le verset 7 du chapitre 4 dit, « Mais la fin de ces choses est proche. Combien plus tôt maintenant que lorsque cela a été écrit, soyez donc sobre et veillés à la prière, et par-dessus tout, ayez une charité fervente entre vous, par-dessus tout, ayez une charité fervente entre vous. Car la charité couvre une multitude de péchés. Encore une fois, le nôtre ou celui d'un autre. Soyez hospitaliers les uns envers les autres sans rechigner. Oh, je dois accueillir des gens. Ok, les gens peuvent venir. Non, tu as de la joie, tu es excité. Comme chacun a reçu le don, appliquez-vous les uns aux autres comme de bons intendants de la grâce multiple de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme l'oracle de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse avec la capacité que Dieu lui donne, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent les louanges et la domination, dans les siècles des siècles. Amen. Nous devons faire les choses qu'il nous est donné de faire les uns avec les autres. C'est pourquoi nous avons des talents. Si vous êtes doué d'un talent quelconque, à quoi sert-il s'il n'est pas partagé ou utilisé pour aider les autres? À quoi cela sert? Vous êtes peut-être un grand cuisinier et vous ne faites que cuisiner pour vous-même. D'une part, vous êtes gros maintenant parce que c'est tout ce que vous faites, mais si vous ne partagez pas cela, pourquoi avoir la compétence, et vous perdrez du poids parce que vous allez donner une partie de la nourriture. Si tu es bon à ceci ou cela, je pourrais juste. Je ne veux pas commencer à nommer des compétences ou des talents parce que nous en avons tous différents. J'aime la nourriture, donc tu peux avoir de la nourriture. Non, nous avons tous des talents différents. Nous avons tous des compétences différentes, mais si nous ne les partageons pas ou si vous ne les utilisez pas, parce que ce ne sont peut-être pas des choses que vous pouvez dire, oh, je suis génial au tricot. Super, vous avez fait une écharpe à quelqu'un, merveilleux. Vous avez contribué à une vente aux enchères, c'est quelque chose que vous pouvez donner, mais vous êtes peut-être tout simplement doué pour écouter. C'est un type de compétence très différent de celui de quelqu'un qui peut fabriquer quelque chose. Vous vous lancez dans une conversation et vous êtes très doué pour inciter une personne à parler. C'est une compétence que vous avez. Utilisez-la, développez-la. Dieu attend de vous et de moi que nous le fassions. Cela fait partie de ce mode de vie. Allons au 1er Corinthiens. En fait, au 1er Pierre. Allons à Pierre 1. 1er Pierre 1. Retournez un peu. 1er Pierre, chapitre 1. Commençons au verset 18. 1er Pierre 1, 18. Car vous savez que vous n'avez pas été rachetés avec des choses corruptibles, de l'argent et de l'or, d'après votre vaine conversation ou conduite reçue par tradition de vos pères, mais avec le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, qui, en vérité, a été ordonné avant la fondation du monde. C'est à se demander si c'était dans la même conversation que nous. On pouvait juste se pousser dans cette période. Il n'y avait pas de temps parce que le temps n'existait pas encore. Mais mettez-vous dans cette conversation du Christ et du Père parlant de ce que Christ finirait par faire, mais en même temps, essayant de savoir qui pouvait être ces 144 000. Même formulation, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté en ces derniers temps pour vous. Derniers 2000 ans. Qui par lui croit en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Nous avons vu, nous avons l'histoire, l'enregistrement de cette résurrection. Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Purifié par l'esprit et l'amour sincère des frères. Voyez que vous vous aimez les uns les autres d'un cœur pur avec ferveur. C'est un verset intéressant. Il y a deux points en cela avec ce dernier verset. Voyant que tu as purifié ton âme, ta vie en obéissant à la vérité. Donc en obéissant, en vivant, en marchant, en faisant, nous purifions nos âmes par l'esprit, et quel est le but de la purification de votre âme? Pas la vie éternelle. Pas la possibilité de faire partie de la famille de Dieu. Pas même tout autre aspect auquel vous pourriez penser. Souvenez-vous du verset. Rappelez-vous que j'ai dit, par l'esprit jusqu'à. Cela signifie que c'est notre but, jusqu'à, pour atteindre l'amour sincère du frère. Cela signifie simplement un amour sincère des frères. Tout ce que nous faisons consiste à faire des choses pour les autres. Et puis élargissez cela, tout ce que nous faisons concerne les gens. Mais vous pouvez aussi voir la dernière partie. Veillez à vous aimer les uns les autres d'un cœur pur, avec ferveur. Parce que si nous n'avons pas un cœur pur, un cœur sincère, si nous ne sommes pas concentrés sur l'obéissance à la vérité, en pensant les uns aux autres, nous n'y arriverons pas. Nous n'endurerons pas parce que c'est un acte. Nous devons avoir un cœur sincère. Nous devons être pleins de joie. Sinon, nous faisons simplement semblant. C'est de la comédie. Nous commençons par revêtir le christianisme, revêtir Christ, mais cela doit changer. Cela doit être et vous pouvez. J'aime m'imaginer des choses amusantes dans ma tête et nous n'avons pas d'image du Christ, donc c'est facile de ne pas le faire, mais pardonnez-moi, cela semble fou. Vous mettez en quelque sorte la peau du Christ et ensuite vous absorbez cette peau. Vous n'allez jamais l'oublier, n'est-ce pas? Désolé, tu ne vas jamais oublier cela. C'est un peu ce que nous faisons. Nous revêtons Christ, ses attitudes, ses pensées, ses émotions, son dynamisme, cet esprit, le dessein de Dieu en lui. Et nous essayons d'absorber tout cela en nous. Il essaie de prendre le dessus. Peut-être qu'il pourrait en trouver un autre qui ne soit pas aussi grossier. Imagine. Non, c'est dégoûtant aussi. S'il y a un champignon qui pousse en nous. Nous devons juste être plus comme Christ. Continuons ici. Allez au chapitre 1 des 1 Corinthiens. Parfois, il faut savoir quand s'arrêter. Chapitre 1 des 1 Corinthiens verset 9. Nous allons sauter au verset 9. 1 Corinthiens 1 9. Dieu est fidèle par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, je vous en conjure, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous de la même chose. Nous tous. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, afin que vous soyez parfaitement unis dans un même esprit et un même jugement. Nous avons toujours appliqué cela entre nous. Il n'y a pas de division dans l'Église. Nous sommes unifiés au même endroit, dans le même esprit, corps et âme, contrairement à toute autre organisation sur Terre. Personne ne s'est jamais réuni avec des groupes de personnes aussi diversifiées autour du globe que nous et qui croient, pensent et font tous la même chose. Cela s'applique donc. Cependant, nous ne pouvons pas non plus avoir de division entre nous, comme sur le plan personnel. Je peux avoir des parties de moi qui ne sont pas d'accord avec d'autres parties de moi. Je dois être tout aussi unifié dans mon état d'esprit et dans mon désir de vivre ce mode de vie et mon désir d'être et de vivre et de marcher dans le christianisme pour en faire ce que je suis, ou je serai divisé entre moi et je deviendrai un poids pour moi-même, pour nous tous. Et Dieu nous garde humbles. Ce verset continue, verset 27, « Dieu a choisi les choses insensées du monde pour enfermer les sages. » Donc juste au cas où nous pensons que nous sommes quelque chose, nos talents, nos dons, ou quoi qu'il soit, non, non, désolé, vous êtes bas, vous êtes insensé, vous êtes faible, vous n'êtes pas, vous n'êtes rien. Nous le sommes tous. Il fait cela pour qu'aucune chair ne se glorifie, comme il est dit dans le verset 29. C'est ce qu'il a choisi. Il a donc choisi un groupe de rien, de pas, et a versé en eux, ce qui rend nos talents, nos dons, encore plus extraordinaires, parce qu'il a choisi un groupe d'entre nous qui n'était pas vraiment bon. Mais il a dit, vous savez quoi, je vais mélanger un peu ce tas génétique, et je vais vous rendre un peu meilleur que ce qui serait sorti si je n'avais pas été impliqué. Et avec cela, on a quelques dons. Nous avons des compétences, nous avons des talents, mais ils nous rappellent, ils viennent pour moi. N'oubliez pas cela et assurez-vous que nous les utilisons tous. Alors développons nos talents et nos dons et concentrons-les sur le service, car exercer ses talents et servir, c'est vivre le christianisme. Encore une fois, exercer ses talents et servir, c'est vivre le christianisme. Le suivant. Il s'agit de se contenter de ce que nous avons, mais de nous pousser à être utilisés de façon extraordinaire. Encore une fois, contentons-nous de ce que nous avons, mais poussons-nous à être utilisés de façon extraordinaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les choses physiques sont faciles. Nous devrions être satisfaits de ce que nous avons. Nous allons lire quelques versets à ce sujet, mais je parle davantage de la place que nous occupons dans le corps du Christ. Peu importe dans quelle partie du corps de Christ vous et moi nous trouvons, nous devons accepter et être satisfaits que Dieu nous ait placés là. Cela peut être au siège social, cela peut être ici même, cela peut être quelque part à Paduc, en Australie ou dans le monde entier. Et peu importe où nous sommes, Dieu nous a mis à cette place dans le corps. Vous pourriez être un membre laïque, un diacre, un ancien, un hôte, et n'importe qui entre les deux, et Dieu dit, non, non, je veux que vous soyez satisfaits là où je vous ai mis. Parce qu'une fois qu'on leste, et cela détruit les gens. Ils voient où ils sont et ils pensent qu'ils devraient être quelque chose de différent. Au contraire, ils voient où ils sont reconnaissants que Dieu les ait laissés être à cet endroit dans la Bible et ensuite ils disent, je dois me concentrer sur mon développement parce que Dieu peut m'utiliser de différentes manières qu'il choisit. J'ai un travail chouette qui me permet de parcourir le monde et de trouver des leaders, de parler au ministère et d'aider à les développer. J'ai donc l'occasion de voir des gens dans différents endroits du monde, et vous seriez étonnés de voir que les ministres les plus efficaces sont ceux qui sont tout simplement choqués lorsque vous leur parlez la première fois. Il y a des gens dans la salle avec qui je me souviens des premières conversations que j'ai eues. Et ils étaient assis autour et, je peux faire quoi? Parce qu'ils étaient satisfaits de la place qu'ils occupaient dans le corps. Ils avaient la possibilité de servir et de faire des choses dans le corps, et Dieu leur a dit, « Non, vous grandissez parce que vous ne vous concentrez pas sur cela. Votre objectif est de servir, de grandir et d'être joyeux. » Et toutes ces choses dont nous avons parlé, vivre le christianisme, afin que je puisse vous utiliser. Les gens sont enthousiastes parce que c'est le travail que vous avez à faire, pas le rôle. Le titre est en rien en tant que chrétien. Nous avons un gouvernement. C'est utile pour le gouvernement pour comprendre le gouvernement, mais après cela, être un évangéliste ou un pasteur ou un ancien qui prêche ou un diacre, nous allons tous être Dieu. Donc si les gens se concentrent sur cela, ils passent à côté de l'essentiel. Vous devez avoir une organisation. C'est à cela que sert le gouvernement de Dieu. C'est pour l'organisation, pour être capable de mettre en œuvre des choses, mais il s'agit du travail que nous faisons, de ce dont nous allons faire partie. Et une fois que nous sommes satisfaits de là où nous sommes, nous disons, « Tu sais quoi, Dieu, je dois grandir. Je dois me développer. Je veux être un meilleur chrétien. Je veux être plus comme toi. Christ. Je veux être capable de revêtir tous ces éléments, joyeux, et je vais grandir et me développer. » Et puis, à un certain moment, Dieu dit, « Ah! D'accord. Je vais t'utiliser d'une manière différente. » Et lorsque notre objectif est de nous développer pour devenir de meilleurs chrétiens, vous avez ce moment où quelqu'un vous dit, je pense que tu peux être un diacre ou un assistant ministériel ou un ancien, et votre réaction est, quoi? Allons au 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 au premier verset. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui est des dons spirituels, je voudrais, frères, que vous ne soyez pas encore ici dans l'ignorance des dons. Vous savez que vous avez été des païens entraînés dans ces idoles muettes, comme ils ont été entraînés. Nous étions donc là avant. Sautons au verset 12. Le verset 12 dit, « Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps unique, étant nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car, par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou païens, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous l'esprit de Dieu. Car le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Et le pied dira, je ne suis pas la main. Je ne suis pas du corps, et donc pas du corps, et les oreilles diront, je ne suis pas l'œil. Je ne suis pas du corps et donc pas du corps. Quelque chose se trame. Ça ne peut pas être un œil, si ce n'est pas un œil, ce ne sera pas un pied. Si le corps entier était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'eux dans le corps et il lui a plu. Voici donc le choix que nous avons. Si nous pensons que nous sommes dans un endroit où nous ne devrions pas être, nous disons que Dieu s'est trompé. Dieu travaille à travers les hommes, mais il a fait l'univers. Rappelez-vous, l'univers. Donc nous sommes là où cela lui plaît. Ce mot « placer » est fascinant. Il signifie simplement « placer ». Mais si vous lisez juste l'endroit avec titomie qui est différent de histémie quand vous avez entendu que c'est pour se lever, mais cela signifie placer. Je vais lire le reste de la description de la définition Strong's. Et l'application la plus large, littéralement et figurativement, correctement dans une position passive ou horizontale. Mais avant que vous n'alliez trop loin et que vous pensiez, oh, parce qu'il est couché. Pas couché parce que continuant est donc différent de ces autres mots, le histémie, qui signifie se tenir debout, ou une position active, donc debout comme je le fais en ce moment. Ok, donc quand même, on parle de s'allonger alors. Alors que cet autre mot, 27, 49, est proprement réflexif et signifie prosterner, c'est-à-dire allonger. Il ne s'agit donc pas de se tenir droit, ni de s'étendre, mais de s'asseoir calmement et confortablement à l'endroit où Dieu nous a mis, vous et moi, dans le corps. Nous ne sommes pas en train de dormir, nous ne nous endormons pas, et nous sommes couchés à plat. Non, nous sommes satisfaits et à l'aise là où Dieu nous a mis, ce que nous ferions bien sûr si nous comprenions que nous sommes placés là où cela lui plaît. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Parfois, les mots grecs et hébreux apportent des différences fascinantes, mineures mais majeures dans l'ensemble. Mais 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. Qu'autant de serviteurs qu'ils sont sous le joug jugent leur propre maître digne d'honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Donc si vous êtes un serviteur, assurez-vous d'honorer votre maître. Et ceux qui ont des maîtres croyants. Cela parle de l'esclavage. Donc de l'esclavage du premier siècle. Si vous avez un maître croyant, qui ne les méprise pas, car ils sont frères. Donc ici vous avez ce groupe qui ont des esclaves avec le maître d'esclaves et l'esclave étant converti. Une époque différente de celle que nous vivons aujourd'hui, bien que l'on puisse considérer les emplois d'une certaine manière et dire exactement la même chose dans ces scénarios. Et s'ils ont des maîtres croyants, qui ne les méprisent pas, parce qu'ils sont frères, mais qu'ils leur rendent plutôt service, parce qu'ils sont des participants fidèles et bien-aimés du bienfait de l'union. Ces choses enseignent et exhortent, et si quelqu'un enseigne autrement et ne consent pas aux paroles saines, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, ceci est conforme à la piété. Il est dit au verset 4, « Il est orgueilleux, il ne sait rien faire d'autre que de s'attarder sur des questions, des querelles de mots d'où viennent l'envie, la querelle, la médisance et les mauvais soupçons. » Et cela continue. C'est un verset intéressant parce qu'il parle d'une situation qui est compliquée et un peu à part ici. Lorsque vous êtes converti et que vous travaillez avec quelqu'un d'autre converti dans une relation d'affaires, c'est extrêmement difficile. Si vous avez déjà vécu cela, si vous êtes dans l'Église de Dieu depuis longtemps, embaucher des gens dans l'Église peut être extrêmement difficile. Parce que cela peut très vite se transformer en orgueil, en ignorance, en questionnement, en querelle, alors que les disputes sont perverses. Donc je donne ceci comme un avertissement et comme pour être plus comme Christ, pour vivre le christianisme. Si vous travaillez pour quelqu'un et qu'il est converti, ne prétendez pas que vous êtes de la famille et que vous pouvez vous la couler douce au travail. Vous êtes un employé, vous devez travailler dur. On doit se surpasser pour montrer aux autres employés qu'on n'est pas favorisé en raison de croyances communes. D'un autre côté, si vous êtes un employeur et que vous avez embauché ou choisi de prendre la décision difficile d'embaucher des frères, ne les traitez pas différemment de vos autres employés. N'attendez pas plus d'eux, mais n'attendez pas moins parce que c'est une situation difficile. Mais Dieu dit que si vous le faites bien, c'est selon la piété. Continuant au verset 6, mais la piété avec le contentement. Si les deux parties sont satisfaites et heureuses dans la situation, est un grand gain, car nous le voyons ici avec le gouvernement de Dieu. Lorsque des esprits convertis travaillent ensemble, ils peuvent être plus efficaces, parce qu'il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de combat de mots, de rayures, de méchanceté, de suppositions. Mais si nous voulons être plus semblables à Dieu, plus semblables à Christ, plus vivre de cette manière, il faut que nous soyons capables de le faire. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous n'en emporterons rien. Ayant de la nourriture et des vêtements, soyons donc satisfaits. Au contentement, et c'est vraiment de cela qu'il s'agit, content de ce que nous avons, content de l'endroit où nous sommes et ensuite nous pouvons aller au-delà de cet endroit. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4 et verset 8. Philippiens 4, 8. Un très bon texte à mémoriser. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste. Philippiens 4, 8. Tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu, quelque louange, pensez à ces choses. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. Mais je me réjouis grandement dans le Seigneur de ce que, maintenant enfin, votre sollicitude à mon égard a refleuri. Car vous étiez aussi attentif, mais l'occasion vous a manqué. Vous vouliez aider, vous vouliez servir, vous vouliez faire des choses, mais il n'y avait pas d'opportunité. Non que je parle à propos du manque, car j'ai appris dans n'importe quel état. Donc il ne s'agit pas seulement de choses. C'est n'importe quel état, quoi qu'il arrive. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, je dois être content. Donc, où que nous soyons dans le corps du Christ, quoi que nous ayons, nous devons être satisfaits. Mais c'est à l'extérieur. Encore une fois, nous nous poussons intérieurement à grandir, à nous développer, à revêtir toutes les choses dont nous avons parlé parce que, ce faisant, nous ressemblons davantage au Christ, nous vivons davantage le christianisme, nous devenons davantage ce que nous sommes. Cela devient ce que nous sommes 24 heures sur 24 et cela ouvre de nouvelles portes. 1 Pierre, Chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Parce que si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, Dieu est maintenant capable de nous utiliser. C'est là que cela change. Chapitre 5 et verset 1. 1 Pierre 5 et 1. J'exhorte les anciens qui sont au milieu de vous, moi qui suis aussi ancien et témoin des souffrances de Christ, et qui ai part à la gloire qui doit être révélée, à plâtre le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, en le surveillant, non par contrainte, mais de bon gré, non pour un gain déloyal, mais avec empressement. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, ni comme seigneur de l'héritage de Dieu, mais comme modèle ou exemple outil pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se fane pas. D'accord, Cela s'adressait à des ministres, et nous nous efforçons tous d'être plus. Mais, de même, toi qui es plus jeune, soumets-toi à l'aîné. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Si nous ne sommes pas satisfaits, si nous ne sommes pas à l'aise avec là où nous nous sommes dans la vie, avec ce que nous avons, pas sur nous-mêmes. Rappelez-vous, nous ne sommes jamais satisfaits de nous-mêmes, nous nous poussons toujours en avant, mais avec ce que nous avons et où nous sommes. Il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. C'est un choix de mots étonnant. Nous savons que nous serons exaltés en temps voulu, lorsque nous serons nés dans la famille de Dieu, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. C'est de l'exaltation. Mais dans ce cas, c'est peu. Donc on pourrait dire, cela parle d'avant ce point, parce que si c'était ce point, nous savons que nous allons l'obtenir. Si nous obéissons à Dieu et allons jusqu'au bout, nous en avons la certitude, mais dans ce cas, il peut vous exalter en temps voulu. Donc Dieu pourrait nous utiliser. Il peut nous utiliser d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Une fois que nous sommes à l'aise, une fois que nous nous revêtons davantage de Jésus-Christ, une fois que nous avons cela en nous pour être de plus en plus comme lui, et cela redevient, nous le christianisme vivant. Donc, contentez-vous de ce que vous avez, mais poussez-vous, moi-même, pour que Dieu puisse nous utiliser de plus grande manière, parce que grandir, c'est vivre le christianisme. Grandir, c'est vivre le christianisme. Et maintenant, le dernier point est un peu différent. Parce que c'est le danger qui peut se produire lorsque nous vivons de cette manière, parce que nous pensons, mec, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Vous et moi, il ne s'agit pas de vivre le christianisme. Vous et moi devons accepter que les procès ne fassent pas partie de la vie chrétienne. Quoi? Non, les épreuves ne font pas partie de la vie chrétienne. Les épreuves font partie de la vie humaine. Parce que si vous êtes ici, vous aurez des épreuves. Si vous êtes à l'extérieur, vous aurez des épreuves. Regardons, retournons à l'Ecclésiaste 7. Le but est différent, mais nous allons voir. Ecclésiaste 7, encore une fois, vous devez accepter en tant que chrétien, les épreuves ne font pas partie du christianisme, c'est une partie de l'être humain. Ecclésiaste 7 et verset 11. Le verset 7, 11 dit, « La sagesse est bonne avec un héritage, et par elle, il y a du profit pour ceux qui voient le soleil. » Car la sagesse est une défense et l'argent est une défense, et l'excellence de la connaissance est que la sagesse donne la vie à ceux qui la possèdent. Considérez l'œuvre de Dieu, qui peut redresser ce qui a été rendu tortueux. Si Dieu rend quelque chose tordu, nous ne pouvons pas le redresser. Si Dieu la redresse, nous ne la rendrons pas tordue. Au jour de la prospérité, soyez joyeux, mais au jour de l'adversité, réfléchissez. Dieu a mis l'un contre l'autre, afin que l'homme ne trouve rien après lui. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils aient de bons et de mauvais jours. On pourrait dire, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils vivent des expériences merveilleuses et Dieu les a créés pour qu'ils aient des épreuves. Et cela va et vient et va et vient, et c'est un cycle. La différence, c'est que si vous êtes dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui guide ces épreuves, qui vous protège pour qu'elles n'aillent pas trop loin, qui ne les laisse pas dépasser ce que vous pouvez supporter. Vous aurez toujours des épreuves en dehors de l'église de Dieu, mais vous n'avez pas de gouverneur sur elles, vous n'avez pas de protection. L'aide de Dieu, sa sagesse, son ministère à conseiller. Tous les différents aspects dans lesquels Dieu nous protège pour nous aider à grandir. Parce que les épreuves arrivent quoi qu'il arrive, Et parfois nous pensons et regardons le monde et pensons, oh là là, on dirait qu'ils ont la vie plus facile. Non, ce n'est pas le cas. Ils donnent juste l'impression de l'être. Ils essaient de vivre leur vie sans Dieu. Ce n'est pas plus facile. Toi et moi l'avons. Les épreuves arrivent, peu importe où nous sommes ou qui nous sommes, mais Dieu les fait et les permet aux chrétiens de les vivre dans un but différent. Il veut que nous les vivions parce qu'elles nous changent. Retour au chapitre 1 de Jacques, que nous commençons à conclure. Jacques chapitre 1. Encore une fois, acceptez que les épreuves fassent partie de l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux chrétiens. Cela rend les choses plus faciles quand elles arrivent parce que vous pensez, « Oh, si je n'étais pas dans l'église de Dieu, ou si je n'étais pas ceci ou cela, alors je n'aurais pas toutes ces épreuves. » Vous allez les avoir. C'est juste que vous n'avez pas Dieu. Jacques, chapitre 1 et verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Mes frères, réjouissez-vous de tomber dans diverses tentations ou épreuves, car elles arrivent. Nous venons de voir que nous ne pouvons pas nous en sortir. Comptez sur la joie. Retour au point de départ de ce message. Rappelez-vous, nous devons avoir de la joie même dans une épreuve. Sachant, verset 3, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu a un but lorsque vous êtes un chrétien. Mais que la patience fasse son œuvre parfaite ou complète, afin que vous soyez rendus parfaits et entiers. Complète. Pour que nous devenions comme Christ, pour que nous disions, vous savez quoi? Je suis un chrétien. C'est ce que je suis. Ce n'est pas seulement quelque chose que je fais, ce n'est pas quelque chose que je crois. Ce n'est pas quelque chose que j'ai comme carrière ou comme travail. C'est ce que je suis. Pour en arriver là, nous devons passer par des épreuves, pour être rendus parfaits et entiers, ne manquant de rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la donne à tous libéralement, sans se plaindre, et elle lui sera donnée. Qu'il demande avec foi, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable à une vague de la mer, poussée par le vent et agitée. Car que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ce que le monde doit traverser. Ils vont connaître des épreuves, mais ils n'ont pas Dieu pour les aider. Ils n'ont pas de but pour les épreuves. Ce n'est pas dans le but de les rendre parfaits et entiers. Frères et sœurs, le christianisme est ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Plus il est ce que vous et moi sommes, plus nous surmonterons les épreuves, plus nous aurons de la joie, plus nous expérimenterons toutes les choses positives qui viennent avec, nous aurons de l'endurance parce que, comme la couleur de votre peau, votre sexe, votre taille, il y a certaines choses qui font de nous ce que nous sommes. Si nous rendons le christianisme aussi certain que la couleur de notre peau, nous supporterons tout. Nous avons commencé par en mettre, mais au fur et à mesure que nous vivons cette vie et que nous expérimentons jour après jour ce que nous devons traverser, cela devient plus fort de nous, plus fort de le vivre. Vivre sa vie et vivre le christianisme doivent être la même chose. Parfois la vie est merveilleuse, parfois elle est remplie de joie, parfois il y a du plaisir et de l'excitation, parfois c'est dur. C'est la vie. Nous avons l'occasion d'expérimenter ce soir avec le spectacle amusant, une de ces fois où il est facile d'avoir de la joie. Quand la soirée se termine et que nous rentrons chez nous, nous devons continuer à vivre le christianisme. C'est un appel que nous ne pouvons pas prendre en vacances. Cela doit être ce que nous sommes. Cela doit être la raison pour laquelle nous sommes nés. Si nous le faisons, si nous n'arrêtons jamais, jamais, Nous allons jusqu'au point où nous nous débarrassons de cette vie. J'ai dit que nous devions la vivre, mais nous allons nous débarrasser de cette vie et nous changer en Dieu avec la vie éternelle. Je vais vous laisser avec une question qui me vient à l'esprit. Si nous vivons le christianisme maintenant et que nous faisons tout ce que nous devons faire, à quoi cela ressemblera-t-il de vivre comme Dieu bientôt?